Europe 1. Al Capone. Il est le plus célèbre mafieux des États-Unis. Et pour cause, il a été la première star de la mafia à jouer de sa popularité dans les tabloïds. Son histoire reflète celle des États-Unis, de l'immigration, de la délinquance dans les quartiers pauvres, mais aussi des années folles et de la prohibition où l'Amérique, en plein dans les Roaring Twenties, fait la fête malgré les interdictions fédérales. La crise économique amorcée par le krach boursier de 1929 marque le début de la chute de Capone. Le héros rebelle n'est plus qu'un parvenu aux yeux de l'opinion, un homme trop riche qu'on aime détester quand on n'a plus rien. L'idole est arrêtée par la police pour un motif, disons, surprenant, avant de finir à Alcatraz, la prison de haute sécurité du pays. Laissez-moi le plaisir de vous présenter Al Capone, ce pur produit de l'Amérique, dans un podcast en deux parties. Je suis Virginie Giraud et nous allons plonger ensemble au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Al Capone, la star de la mafia américaine. Épisode 1, Scarface. Nous sommes à New York à la fin des années 1910, dans un bar de Coney Island. Alphonse Capone a environ 18 ans. Il est déjà une petite frappe bien connue des gangsters du coin. C'est pour ça qu'il a été embauché par Frankie Yale, un parrain de Brooklyn, pour faire le videur à l'entrée de son établissement de nuit. C'est un bon poste pour observer les gens qui vont et qui viennent dans le club. Mais ce soir-là, Al Capone est distrait par une jolie fille, une poupée qu'il adorerait mettre dans son lit. Il s'approche d'elle et lui susurre des choses pas très catholiques à l'oreille. La jeune femme exaspérée le repousse, mais Al en remet une couche. Il n'aurait pas dû. La demoiselle échappe à son étreinte et se réfugie dans les bras d'un client du club, un certain Frank Galluccio. Il est lui aussi l'un des gros bonnets de la mafia, et cette poupée, c'est sa petite sœur. Frank s'approche d'Al et le ton monte. Frank Galluccio est un sanguin. Il sort un couteau et frappe directement au niveau du visage. La lame taille trois belles estafilades sur la joue gauche d'Al Capone. La plus profonde trace un sillon rouge allant de l'oreille à la commissure de la bouche. Le jeune videur porte la main à son visage. Le sang coule entre ses doigts. La blessure est profonde. Elle laissera une cicatrice. Dans cette affaire, le jeune Capone gagne un surnom. Scarface. Mais pas question de dire la vérité sur une bagarre aussi désolante. Ce qui compte pour se faire un nom, c'est l'art de se raconter. L'histoire d'Al Capone commence un peu avant sa naissance. Son père et sa mère, Gabrielle et Teresa, ont décidé de quitter leur petite ville d'origine près de Naples. L'Italie est en plein Risorgimento, son processus d'unification qui s'étend sur tout le 19e siècle. Il se caractérise par de nombreux conflits armés qui appauvrissent les plus humbles, démodent la vieille noblesse et promet des jours heureux à une nouvelle classe bourgeoise. Les Capone ne sont pas de cela. Ils rêvent donc de faire fortune dans le Nouveau Monde. Ils font partie de la première vague d'Italiens à s'installer en Amérique. Le couple Capone emménage à Brooklyn, un quartier de New York alors très pauvre. Gabrielle est barbier, Teresa est couturière. C'est là que naît Alphonse Gabrielle en 1899, notre Al Capone. Il a sept frères et sœurs. Les Capone tiennent à l'éducation de leurs enfants et Alphonse est placé dans une école catholique. Mais sa véritable école, c'est la rue. La loi du plus fort prévaut sur l'autorité. Dans les quartiers pauvres comme à Brooklyn, on assiste à l'émergence de gangs. Les gangsters recrutent très tôt parmi les jeunes garçons. On fait ses classes en apprenant à voler, à intimider et à se battre. À 14 ans, l'indiscipliné Al a déjà quitté les bancs de l'école, mais il a sa place dans des gangs comme le Junior 45th, puis dans le Brooklyn Reapers. Ses larcins lui permettent notamment d'aider sa famille. Évidemment, les grands caïds ont toujours un œil sur les jeunes pousses, et il faut croire que le petit Al, avec sa bouille ronde de gentil garçon, a un gros potentiel.
C'est vrai qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais il va pas nous la faire à nous.
C'est pas par hasard qu'on finit par être recruté par le Five Points Gang qui tient une partie de Manhattan. Le Five Points Gang, c'est la terreur de New York.
Au départ, il était constitué d'hommes d'origine irlandaise, mais il recrute aussi dans la jeunesse italienne de la dernière vague d'immigrés en Amérique. À la même époque, Capone travaille comme videur dans un bar de Coney Island pour Frankie Yale, un autre parrain. Il le voit un peu comme son mentor. Et c'est vrai qu'il faut le canaliser, le gamin. C'est dans ce bar qu'il se bagarre avec Frank Galluccio pour avoir mal parlé à sa sœur. L'estafilade au couteau sur sa joue gauche lui vaut donc le surnom de Scarface. Mais c'est pas bien dans le milieu de dire qu'on s'est pris une raclée par un autre gangster. Alors, Al préfère raconter qu'il s'est fait sa cicatrice sur le front en Europe. C'était ça, la guerre dans les tranchées. Croira à son mensonge qui veut, mais pas nous. Ses biographes attestent qu'Al Capone n'a jamais été enrôlé dans l'armée. En 1919, Scarface est envoyé à Chicago par ses patrons de New York. C'est là qu'il se met au service d'un des grands patrons de la pègre, Johnny Torrio. Il travaille comme videur dans un de ces clubs dont les étages servent de bordel. C'est certainement là qu'il attrape la syphilis d'ailleurs. La syphilis existe toujours, soit dit en passant. C'est un peu l'équivalent du sida à cette époque. Il faut attendre les années 1905-1910 pour la soigner efficacement. Mais vous vous doutez bien qu'à 20 ans, Al Capone ne se préoccupe pas des premiers symptômes de la syphilis et la maladie se met en dormance. Cette année 1919, c'est surtout un tournant économique pour la mafia américaine. La Première Guerre mondiale est terminée, on arrive bille en tête dans les Roaring Twenties, les années folles, ce moment où tout l'Occident est à la fête. Les cabarets prospèrent, les jupes des femmes raccourcissent et l'alcool coule à flot. Beaucoup trop d'ailleurs. Cette débauche ne plaît pas du tout aux puritains américains, les descendants des Pilgrim Fathers, les pères fondateurs, qui ont le sens de la fête d'un mormon en dépression. En même temps, il faut reconnaître que l'alcool fait des ravages aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Pendant la conquête de l'Ouest, la première chose qu'on ouvrait dans une nouvelle bourgade, c'était un saloon. Certains États, comme le Maine, avaient commencé à limiter les ventes d'alcool dans les années 1840-1850. D'autres ont progressivement suivi cet exemple. C'est comme ça qu'apparaissent les dry states dans lesquels il est interdit de distribuer et de produire de l'alcool. Je suis certaine que vous allez rire si je vous dis qu'il existe encore des dry counties aujourd'hui, des comtés dans lesquels on ne sert pas d'alcool. Si vous voulez une bière, il faut aller dans le comté d'à côté, voire dans l'état voisin. Bref, la décompression qui suit la Première Guerre mondiale jette la jeunesse en mal de fête dans les bars et pour juguler le fléau de l'alcoolisme qui se répand comme une maladie sociale, les États-Unis votent le Volstead Act en 1919. Cette mesure sanitaire est alors portée par un républicain, Andrew Volstead. Maintenant, il est interdit de produire, de distribuer et de vendre de l'alcool partout dans le pays. Vous imaginez bien que les Américains se mettent à ressembler à des adolescents qui font le mur pour aller à la fête. Les speakeasy, ces bars secrets, fleurissent comme de la mauvaise herbe dans une prairie au printemps. Et dans ces bars, on fait tout ce qui est interdit. On joue aux jeux d'argent, on écoute de la musique noire, jouée par des noirs, du jazz donc, on danse et surtout, on boit. Le marché de l'alcool devenu illégal est alors entièrement aux mains de la pègre qui s'enrichit considérablement. Le Volstead Act, qui avait pour but de purifier la jeunesse américaine en moralisant le quotidien, est donc un échec retentissant. Le premier job d'Al Capone pour Johnny Torrio à Chicago, c'est d'accoster les passants pour les convaincre d'entrer dans le bar bordel de son patron. Et comme il est doué et ambitieux, Torrio lui fait vite confiance. Capone sait enjôler ou donner du coup de poing quand il le faut. Il devient donc le bras droit de Torrio dès 1920. Ce qui lui aurait valu une telle promotion n'est pas certain à 100%, mais on pense que Capone aurait tué pour le compte de Torrio le plus grand parrain de Chicago, Big Jim Colosimo, qui gérait plus d'une centaine de maisons closes. Du coup, Torrio reprend les affaires de Big Jim et devient le seul boss de Chicago. Pendant 5 ans, Torrio possède le monopole du marché noir de l'alcool dans la région. Vous vous doutez bien qu'une telle source de revenus suscite des convoitises. En 1925, Torrio tombe dans une embuscade. Il survit, mais décide d'aller se mettre au vert en Italie. Il laisse son juteux business à son jeune second, Al Capone. À 26 ans, Al Capone est le nouveau patron de l'outfit de Chicago, l'un des plus gros gangs de la région. Jusque-là, les parrains étaient plutôt discrets. Mais Al Capone adore la lumière. Il cultive son réseau avec des célébrités et des politiciens, parmi lesquels le maire de Chicago en personne. À cette époque-là, la presse américaine connaît un grand succès. Pour vendre du papier, elle est prête à raconter les histoires les plus sordides, à divulguer les détails les plus stupéfiants des faits divers, mais aussi à créer des stars. En cette fin d'année 1920, l'Amérique est prospère et fantasme clairement sur les bad boys, les gangsters qui vivent une existence excitante, sans règles. C'est un peu la version urbaine du Wild West, l'Ouest sauvage. Dans ce contexte, la presse érige en héros Al Capone, le roi de Chicago. C'est un vrai personnage. Il porte un costume croisé impeccable, des chemises sur mesure, des caleçons en soie qui valent un mois de salaire pour un ouvrier, et un éternel borsellino blanc. C'est vrai qu'il est pas mal du tout, hein, même s'il est un peu rondouillard. Avec ses yeux clairs et son sourire charnu, il ne manque pas de charme. Capone, devenu une icône, lance une mode, le gangster chic. Très imité, jamais égalé. Il devient même le cliché du mafieux dans les films. On est à l'époque où, au cinéma, les mafieux sont cool et triomphent de la police. Mais les temps changent. L'automne 1929 marque la fin de la belle saison. Al Capone fait un faux pas, alors que dans les tours toutes neuves de Wall Street à New York, les rois de la finance s'agitent. Pour découvrir comment Al Capone a commencé à ternir sa réputation sur fond de crise, je vous donne rendez-vous dans le second épisode. À très vite.